Hélène Philippe pour le journal, bonsoir.
Bonsoir à tous. Après le gaz, voici donc l'essence. Le gouvernement est prêt à un nouveau geste. Plusieurs pistes possibles, une aide spécifique, plus qu'une baisse de taxes en tout cas. Face à la flambée des prix de l'énergie qui touche toute l'Europe, Bruxelles partage aussi ses idées de mesures temporaires, d'urgence, on fera le point. Pas de désarmement face à l'épidémie, la prolongation du pass sanitaire présenté en Conseil des ministres avec des sanctions plus dures en cas de fraude et la promesse d'un rapport d'étape au Parlement en février. Dans l'actualité encore, la condamnation de l'élève agresseur d'une enseignante à Comblaville, 5 mois de prison avec sursis. La justice espagnole réclame l'incarcération du champion du monde de foot, Lucas Hernandez. Et les couturières de Levi's remontent sur scène 20 ans après la fermeture de leur usine dans le Nord. Elles n'ont rien oublié de leur combat pour défendre leur emploi. Et au téléphone, c'est Fabienne.
Eh bien, ce soir, on voudrait vraiment que vous nous appeliez depuis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et d'ailleurs à les îles, décalage est favorable. Et la question, c'est comment ça va après une quatrième vague de Covid qui a été particulièrement rude, tellement mortelle, et une acceptation de la vaccination dans les Outre-mer d'une manière générale qui est plus compliquée encore que ce qu'on a pu voir en métropole. Venez nous raconter, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. Comment enrayer la flambée du coût de l'énergie qui touche tous les pays européens? Bruxelles s'est donc emparée du sujet et propose toute une série de mesures aux États soucieux d'alléger la facture des ménages. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles, Angélique. Une boîte à outils donc que propose Bruxelles en quelque sorte pour des mesures avant tout d'urgence. Qu'est-ce que les États peuvent y piocher?
Eh bien, ils peuvent décider d'alléger partiellement les factures, reporter dans le temps des paiements, distribuer des bons d'achat comme les chèques énergie. Bruxelles autorise aussi la réduction de certaines taxes. On peut baisser la TVA, mais, insiste la Commission, il faut tout de même cibler les foyers les plus vulnérables et les petites entreprises et de façon provisoire. Il faut pouvoir faire marche arrière quand les prix vont se stabiliser, précise un haut fonctionnaire. On sait qu'il est politiquement difficile de revenir sur une baisse générale de taxes. Et parce que la Commission ne veut pas mettre en péril la transition énergétique en cours. Elles disent aussi vouloir pousser les États à accélérer encore plus leurs investissements dans les énergies renouvelables et la rénovation, par exemple, des bâtiments publics et privés. Il faut encore mieux utiliser les fonds européens existants, dit-on aussi ici, en allégeant, par exemple, les procédures d'appel d'offres. Alors, avec quel argent financer les aides d'urgence? Eh bien, la Commission, qui ne peut pas intervenir elle-même, ce n'est pas dans son mandat, a invité aujourd'hui les États, puis dans le surplus de recettes du marché européen carbone, les droits à polluer, qui ont rapporté plus de 10 milliards d'euros de plus aux Européens ces derniers mois par rapport à l'an dernier.
Face à l'urgence, ce sont bien les États qui sont en première ligne. Vous le dites bien, Angélique Boin, en France, c'est le prix de l'essence qui inquiète après celui du gaz, arrivé à son plus haut depuis la crise des Gilets jaunes en 2018, 1,54€ le litre de gazole. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Le gouvernement dit donc réfléchir à des mesures pour alléger la facture.
Oui. Et sans toucher à la fiscalité qui représente 56% du prix à la pompe, les marges de manœuvre sont réduites. Le porte-parole du gouvernement évoque des mesures de protection si nécessaire, si la hausse mondiale devait durer. Alors l'idée de rendre aux Français les plus modestes sous la forme d'un chèque énergie, ces surplus de recettes fiscales, fait partie des rares options sur la table. Mesures temporaires pour ne pas gréver durablement les recettes fiscales sur le carburant, qui contribuent également au financement des énergies renouvelables. La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, regarde également du côté des distributeurs. Elle interpellait la profession hier soir à l'Assemblée nationale.
Nous allons d'abord, dans un premier temps, nous assurer que les distributeurs jouent le jeu et qu'aucun d'entre eux ne profite de la situation pour accroître les prix à la pompe de manière excessive. Je demande également aux distributeurs de faire un geste dans cette période difficile en réduisant leurs marges et je me réserve bien sûr la possibilité de les réunir en cas de besoin.
Les distributeurs rappellent pourtant de leur côté que les marges qu'ils réalisent sont fixes de 0,3 à 2 centimes par litre et ceci quel que soit le prix du litre, souligne Francis Pousse qui représente les stations-service au Conseil national des professions de l'automobile.
Je comprends très bien que l'équation est compliquée pour le gouvernement et pour le budget de la nation, mais qu'on me demande pas de faire quelque chose que je suis incapable de faire. De tout temps, on a été rémunéré au litre et non pas à l'euro. Dans la mesure où nous n'avons une marge que de 0,3 à 2 centimes, bien évidemment, nous ne pouvons pas encore baisser nos marges. C'est absolument pas possible.
Les pétroliers, de leur côté, renvoient la balle également du côté du gouvernement et soulignent que malgré le gel gouvernemental sur la fiscalité depuis 2018, le prix à la pompe a pris pas loin de 20 centimes par litre avec l'augmentation de la fiscalité entre 2014 et 2018.
Le prix de l'énergie dont se saisissent tous les candidats à la présidentielle ou presque, et pour eux, la baisse des taxes n'est pas tabou. La une TVA à 5,5 au lieu de 20 propose Marine Le Pen et Arnaud Montebourg un blocage des prix pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis l'autre souci du moment, ce sont les pénuries, les problèmes d'approvisionnement et ces embouteillages de cargo. Le plus grand port du Royaume-Uni sur la côte Est a dû rediriger plusieurs porte-conteneurs remplis de marchandises pour Noël vers d'autres pays et d'autres ports comme Rotterdam ou Anvers pour transférer les cargaisons dans des bateaux plus petits. Une congestion qui va encore durer 6 à 9 mois, prédisent les Britanniques. Et aux États-Unis, c'est un peu pareil. La Maison-Blanche pousse au travail nuit et week-end. La ministre de l'Économie en vient même à demander aux Américains de ne pas paniquer, assurant qu'il y aurait quand même des cadeaux sous le sapin.
On ne se passera pas tout de suite du pass sanitaire.
Le gouvernement veut le garder sous le coude jusqu'à la fin du mois de juillet. Éviter qu'on dise, en cas de reprise de l'épidémie, que rien n'était prévu. Le projet de loi prolongeant le recours possible au pass sanitaire était donc présenté en Conseil des ministres ce midi. Et il faut noter, Maxence Lambrec, un certain durcissement des sanctions, notamment en cas de fraude.
Oui, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour ceux qui revendent de faux pass sanitaires, qui en font un commerce. Nous avons identifié des soignants qui ont ainsi récolté des milliers d'euros à coups de fausses injections, explique-t-on à Matignon. L'échelle de sanctions n'était pas adaptée. Ça ne concerne évidemment pas le restaurateur qui a juste oublié de vérifier le pass à l'entrée de son établissement. Pour le reste, l'arsenal juridique reste le même, avec la possibilité de confiner, d'imposer un couvre-feu, 30 jours maximum avant un vote du Parlement, et la possibilité aussi d'utiliser jusqu'à l'été le pass sanitaire si et seulement si c'est nécessaire, précise Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
Ce texte ne prévoit pas le pass sanitaire à vie. Comme nous l'avons toujours dit, à la seconde où il ne sera plus nécessaire pour contrôler l'épidémie, nous serons ravis de le retirer.
Garder les cartes en main jusqu'au 31 juillet pour éviter de devoir convoquer le Parlement en pleine campagne présidentielle ou législative. Le Sénat a déjà prévu de s'attaquer à cette date pour une clause de revoyure en février. Le gouvernement propose, lui, un simple rapport d'étape cet hiver et renvoie les opposants à leurs anciennes déclarations.
Quand on a fermé les écoles, ils nous ont dit qu'il fallait les laisser ouvertes. Quand on les a rouvertes, ils nous ont dit qu'il fallait les laisser fermées. Quand on a confiné, ils nous ont dit qu'il fallait pas le faire. Et quand on a décidé de ne pas confiner, ils nous ont expliqué qu'il aurait fallu confiner. Qu'il y ait une opposition des oppositions ne me surprend pas.
Ajoutant que c'est le 11e texte sanitaire que le Parlement va devoir examiner, la preuve, selon Gabriel Attal, qu'il n'a jamais été contourné.
Le taux d'incidence de l'épidémie dépasse encore le seuil d'alerte dans 18 départements, mais on ne recense que 4000 nouveaux cas par jour. L'île de la Réunion sort de l'état d'urgence. La Guyane, elle, va y rester jusqu'à la fin du mois de décembre. Et une quarantaine de soignants va décoller pour la Nouvelle-Calédonie, encore saturée par l'afflux de patients. Et puis l'international de foot, Théo Hernandez, qui a disputé la finale de la Ligue des Nations dimanche, a été testé positif au Covid. Deuxième cas au sein de l'équipe de France après Adrien Rabaut qui, lui, avait quitté ses coéquipiers avant le match. Et puis pendant que le cadet s'isole pour cause de Covid, l'aîné a des ennuis avec la justice. Lucas Hernandez, champion du monde il y a 3 ans, qui jouait aussi ce week-end avec son frère la finale de la Ligue des Nations. Il va devoir répondre à la justice espagnole qui réclame son incarcération. Lui et sa compagne avaient été condamnés pour des violences au sein de leur couple. On reproche aux joueurs de ne pas avoir respecté la mesure d'éloignement, Jean-Pierre Blimaud.
Et oui, et c'est la date de 2017, au moment où le défenseur des Bleus évolue à l'Atlético Madrid. À l'époque, une altercation oppose Lucas Hernandez à sa compagne. La justice madrilène condamne le couple à 31 jours de travaux d'intérêt général et à une interdiction de s'approcher ou de communiquer pendant 6 mois. Et le couple ne l'a pas respecté, le joueur et sa compagne filant le parfait amour 4 mois plus tard et a même été surpris ensemble dans un aéroport, celui de Madrid. Alors arrêté et condamné par un tribunal correctionnel à 6 mois de prison, Lucas Hernandez a demandé la suspension ou la modification de sa peine en travaux d'intérêt public, ce qui n'a pas été accepté. Le défenseur de l'équipe de France est donc appelé à se rendre en Espagne le 19 octobre et choisir l'établissement pénitentiaire de son choix, dans un délai de 10 jours. Reste à savoir si le joueur qui évolue actuellement au Bayern Munich ira effectivement en prison. Selon le tribunal, l'ancien défenseur de l'Atlético Madrid a déjà fait appel de la décision et pourrait éviter la prison si son recours était accepté. En Espagne, les peines de prison inférieures à 2 ans ne sont généralement pas appliquées, sauf s'il s'agit d'une récidive, auquel cas l'incarcération est exigée, même si la peine est très courte.
Explication Jean-Pierre Blimeau. Il avait agressé son enseignante en pleine classe la semaine dernière à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. L'adolescent, jeune majeur, a été condamné aujourd'hui en comparution immédiate à 5 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans qui implique 140 heures de travaux d'intérêt général.
Ce terrible coup dur pour les droits humains en Algérie.
Ce sont les mots d'Amnesty International. Après l'annonce de la dissolution du RAJ, le Rassemblement Action Jeunesse, 28 ans d'existence, une organisation citoyenne qui a été au premier rang du Irak, le mouvement pro-démocratie, initié il y a 2 ans et demi, Benjamin Illy a pu joindre son président.
La sanction administrative fait suite à une requête du ministère de l'Intérieur algérien qui réclamait donc la dissolution du RAJ. Les autorités lui reprochent notamment d'agir en violation de la loi sur les associations. Réponse des principaux concernés.
C'est un procès politique qui n'a rien à voir avec la loi.
L'universitaire Abdelwahab Fersaoui, président du RAJ, le Rassemblement Action Jeunesse, lui-même a été condamné à 1 an de prison pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Il a finalement purgé 6 mois entre fin 2019 et mai 2020. Cette fois, c'est l'organisation qu'il dirige qui est visée.
L'association RAJ, elle essaye de donner l'espoir aux jeunes pour militer pour leurs droits et pour leur liberté. Dissoudre cette association, c'est tuer l'espoir chez les jeunes. Le mouvement associatif autonome, il faut le considérer comme étant un partenaire et non comme un adversaire à abattre. Cette approche sécuritaire qui veut faire taire toute voix discordante et toute expression libre des Algériens ne peut qu'aggraver la crise et la prolonger dans la durée.
Le Rassemblement Action Jeunesse n'en reste pas là. Abdelwahab Fersaoui nous le confirme. L'organisation va maintenant se tourner vers le Conseil d'État algérien pour faire appel de la décision du tribunal administratif en espérant que le RAJ pourra poursuivre ses activités après plus de 28 ans d'existence.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi le Yémen et la bataille meurtrière de la ville de Marib. Une centaine de rebelles tués aujourd'hui par des frappes de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite. Elle appuie les forces du gouvernement face aux rebelles houthis proche de l'Iran depuis 6 ans maintenant. Au Mali, la mort d'un soldat français tué accidentellement alors qu'il réparait le moteur d'un camion. Adrien Kellin, 29 ans, appartenait au 4e régiment des chasseurs de Gap. Et puis vers une nouvelle béatification au Vatican, celle de Jean-Paul Ier qui n'est resté pape que 33 jours en 1978 avant d'être victime d'une crise cardiaque. Le Vatican pense qu'il aurait permis la guérison d'une fillette à travers les prières d'un prêtre.
Les parties civiles continuent de témoigner au procès des attentats du 13 novembre.
Nous sommes dans la 3e semaine et nous écoutons le récit des rescapés du Bataclan. Charlotte Piret, vous êtes sur place avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Certains ont réussi à se cacher dans les loges de la salle de spectacle.
Oui, ce 13 novembre 2015, tous les recoins possibles du Bataclan ont été utilisés comme cachette. Pour Christophe, c'est un cagibi. On était une vingtaine, les uns sur les autres. Dans la loge où se cache Stéphanie, mais aussi le bassiste des Eagles of Death Metal, ils sont si nombreux, finissent par avoir tellement chaud qu'ils se partagent un saladier de glaçons trouvé dans le frigo. Prennent aussi la bouteille de champagne. On s'est dit qu'on pourrait s'en servir comme arme. Ils envisagent encore de casser le miroir pour utiliser les morceaux tranchants. Puis c'est l'attente, suspendue au moindre bruit. L'explosion du premier terroriste, on a pensé que le Bataclan avait été plastiqué. Les tirs cessent, les gémissements s'élèvent, plus nombreux, les cris aussi, comme ce cri terrifiant qui m'a hanté pendant des mois, se souvient Stéphanie. Dans toutes les cachettes, on s'astreint au silence. Dans celle de Stéphanie, une fuite d'eau menace de faire s'écrouler le faux plafond, alors ils le retiennent pour éviter qu'il ne fasse du bruit en tombant. Lorsqu'on frappe à la porte, au bout de 2 heures, Stéphanie est persuadée que c'est la fin. Dans le cagibi de Christophe, on leur crie 2 prénoms, Ludo et David. On s'est dit que c'était pas des prénoms de djihadistes. Ils finissent par ouvrir, la peur au ventre. Derrière, il y a le RAID et la BRI.
Charlotte Piret, en direct du palais de justice sur l'île de la Cité à Paris, a retrouvé aussi sur franceinter.fr toute l'enquête qui a suivi la tragique nuit du 13 novembre. Les zones d'ombre qui subsistent, c'est un dossier très complet de Charlotte Piret et de Sophie Parmentier. Et dans le contexte du procès du 13 novembre, le ministre de l'Intérieur appelle les préfets à une vigilance totale. 2 jours avant les commémorations de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, des hommages qui pourraient donner lieu à des des actes malveillants, juge Gérald Darmanin. Et puis l'enquête sur l'assassinat en 2016 d'un policier et de sa compagne à Magnanville dans les Yvelines. Cette enquête est close. L'assaillant, Larossi Abala, avait revendiqué l'attaque au nom du groupe État islamique avant d'être abattu par le raid. Trois personnes de son entourage sont mises en examen pour complicité. Décarboner l'économie, c'était l'un des grands axes de la politique industrielle vantée hier par Emmanuel Macron, mais la conversion de l'industrie se fera pour certains dans la douleur. L'une des quatre dernières centrales électriques à charbon se trouve à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Et depuis hier, une centaine de salariés et ex-salariés se mobilisent contre les suppressions de postes et le risque qu'elles font porter, disent-ils, sur la sécurité du site. C'est un reportage de Cyril Ardo.
Selon la direction, les salariés occupent l'usine et se seraient introduits de manière violente. Camille Jaffrello, responsable communication de Gazelle Énergie, propriétaire de la centrale, était l'invité de France Bleu Provence.
La centrale est toujours occupée illégalement par des individus qui sont toujours munis d'armes de catégorie D, des matraques, des battes de baseball, des bombes lacrymogènes.
La direction annonce avoir porté plainte et demande l'intervention des forces de l'ordre, mais la CGT a une version complètement différente. Nadir Adjali, secrétaire général adjoint du syndicat.
L'inspection du travail hier est passée, elle n'a pas vu de cagoulé, ni de batte, ni de rien du tout. On fait un constat du siège, je vous dis aujourd'hui, c'est de la diffamation.
Pour les syndicats, la centaine de suppressions de postes fait peser un risque sur l'usine classée Seveso, mais plus largement les salariés s'inquiètent pour leur avenir. L'autre partie du site, l'unité biomasse, n'a quasiment jamais fonctionné en 3 ans et certains comme Nicolas craignent à terme une fermeture totale.
Dans le secteur, toutes les industries, elles ferment. Le mieux, ça serait que Gazelle Énergie parte et qu'il y ait un autre repreneur qui veuille vraiment investir et vraiment faire tourner la biomasse, qui nous reprenne et qu'on repart sereinement.
La CGT a déposé pour cette usine un projet de développement de la production d'hydrogène. La direction a, elle, déposé un projet semblable, mais à ce jour, l'État n'a pas encore tranché.
Il y a 6 acquéreurs potentiels pour les fonderies de Bretagne, annonce du groupe Renault, qui a décidé de vendre le site en mars dernier. Les salariés avaient entamé une grève qui avait duré plus de 2 mois pour protester. L'usine emploie 315 personnes. Renault qui annonce aussi ce soir qu'il va quitter le siège qu'il occupe depuis 20 ans à Boulogne-Billancourt d'ici l'été prochain. Une question de coût, dit le constructeur automobile. Et voici un autre combat dont on se souvient. Au début des années 2000, 541 ouvrières s'étaient retrouvées sur le carreau après la fermeture de leur usine Lévis de la Bassée dans le Nord. Plusieurs d'entre elles sont montées sur scène quelques années plus tard pour raconter leur histoire. 501 Blues, c'était le nom de ce spectacle, né d'un travail d'écriture avec un metteur en scène parisien qui avait été touché par leur combat. 20 ans plus tard, les 5 anciennes couturières relancent l'aventure ce soir au Colisée de Lens et ensuite en tournée dans la région des Hauts-de-France. C'est un reportage France Bleu Nord de Cécile Bidot.
Dans un décor presque nu, chaise blanche sur fond noir, blouse accrochée à un portant en métal, les 5 ex-ouvrières miment l'usine, dansent des gestes 1000 fois répétés, toujours ancrés dans leur corps.
Marilyn, pose pas ça.
Sur un écran vidéo, on revit la fermeture, les manifestations et ensuite la belle aventure 501 Blues. La pièce a tourné pendant 4 ans. Elle est devenue une référence dans le monde du théâtre documentaire.
Les mains bleues. Impression de revenir avec un bout d'usine à la maison. On l'avait sur la peau, on l'avait dans la peau.
Ces femmes ont aujourd'hui entre 60 et 68 ans. Dominique Bourdeau-Duc est heureuse de faire revivre cette époque 20 ans après.
C'est un message d'espoir de dire bah oui, on a été licenciés, ouais, c'est dur. Mais alors comment on va pouvoir contourner ça? Et puis c'est une revanche en fait aujourd'hui. Bah ouais, quoi, 20 ans après, on a 60 ans, on n'est pas foutu, quoi.
Le metteur en scène Bruno Lajara, qui les avait accompagnés à l'époque, a ajouté une séquence au spectacle d'origine. Des images de l'usine Bridgestone de Béthune, tout récemment fermée.
C'est triste que 20 ans après, ce soit les mêmes histoires, pour les mêmes raisons qu'on ferme les usines. Et l'exclusion, elle est peut-être de plus en plus large, elle est différente d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, mais qui sont exclus. C'est pour ça que le spectacle, il est toujours actuel.
Cette fois, les anciennes de Lévis l'assurent, cette tournée des 20 ans est leur tournée d'adieu à la scène.
Une tournée des 20 ans qui va passer par Lens, donc ce soir 20h, Armentières, Liévin, mais aussi Hénin-Beaumont.
Eh bien voilà, merci beaucoup Hélène Philly, merci beaucoup, à demain bien sûr. Nous on reste ensemble, c'est le téléphone sonne dans un instant. Comment vont les Outre-mer après une 4e vague de Covid qui a été particulièrement terrible? On vous entendra dans un tout petit instant, on jette un œil sur le ciel avant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et Sébastien Léa, soleil et éclaircie pour tout le monde, voilà pour le programme de demain.
Oui, déjà omniprésent cet après-midi, le soleil va encore gagner du terrain, s'imposant dès les premières lueurs du jour sur la majeure partie du pays demain, hormis quelques brumes ou brouillards ou encore quelques nuages bas présents sur le quart nord-est, le Lyonnais, entre le bassin aquitain et le midi toulousain ou encore sur la Bretagne. Ces grisailles évolueront favorablement, généralement en milieu de matinée pour laisser place à un ciel dégagé. Entre la baie de Somme, le Boulonnais et les Ardennes, les nuages seront plus imposants demain matin, s'accompagnant parfois de petites gouttes. Le ciel va progressivement se trouer et l'après-midi sera plus lumineux. Et puis en Provence, le ciel sera partagé entre soleil et nuages le matin comme l'après-midi.
Et température en baisse quand même cette nuit, Sébastien.
Ouais, l'ambiance sera assez fraîche dès ce soir et surtout en fin de nuit et au petit matin. On attend 3 degrés à Dijon et Bourges, 2 degrés à Poitiers et Le Mans, 1 degré à Alençon, Nancy, Clermont-Ferrand ou encore Auch. Les minimales seront même parfois négatives. En revanche, le soleil généreux va permettre au maximal de grignoter quelques degrés demain après-midi. 15 degrés à Metz, Mulhouse et à Lyon, 16 degrés pour Besançon et Valenciennes, 17 degrés à Paris, Dieppe et Quimper, 18 degrés pour Nantes et Digne-les-Bains, 19 degrés à Perpignan et Bastia et 21 degrés à Arcachon, Montauban et Toulon.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.